Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'était en 1985, l'affaire du Rainbow Warrior secouait le gouvernement de Laurent Fabius. Franck Ferrand y revient cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le Rainbow Warrior était, vous le savez, ce navire de Greenpeace saboté, écoulé dans le port d'Auckland à la suite d'une opération assez catastrophique des services secrets français. Eh bien, je vais vous raconter cette histoire, après quoi nous en parlerons avec Marc Baudrier, auteur chez Talendier d'une histoire trouble de la Ve République. Et puis tout à l'heure, j'évoquerai les origines de l'état civil à l'occasion du 23e congrès national de généalogie qui aura lieu ce week-end dans mon cher Poitiers, en tout cas au Futuroscope, ce qui en soi tient du paradoxe. Alors à propos de paradoxe, je vous propose de nous retrouver 30 ans en arrière au cœur d'un des sacs de nœuds de notre histoire contemporaine.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
L'affaire est encore assez récente pour qu'elle rappelle des souvenirs à nombre d'entre vous. Rappelez-vous, nous sommes au début de l'été 1985 lorsqu'éclate, c'est le cas de le dire, cette affaire d'un navire écologiste coulé en Nouvelle-Zélande. L'explosion a fait un mort, un photographe d'origine portugaise, Fernando Pereira. Ce qui va vite se révéler, c'est qu'en fait on est en face d'un attentat politique. Orchestré, si l'on peut dire, par la France de François Mitterrand, un attentat qui sera présenté par la presse comme un Waterloo écologique, un véritable désastre et même le plus gros échec des services secrets français à l'étranger, les services qui avaient baptisé l'opération contre le Rainbow Warrior satanique. Il faut peut-être se replacer dans le contexte de cette année 1985. On sait qu'à l'époque, la dissuasion nucléaire est encore d'autant plus importante qu'on est dans la toute fin, c'est vrai, mais encore dans le contexte, sinon tout à fait de la guerre froide, du moins de l'affrontement des blocs. Des essais nucléaires sont effectués depuis plusieurs années en Polynésie française, depuis l'atoll de Mururoa. Cet atoll de Mururoa, c'est un archipel qui est situé en plein milieu de l'océan Pacifique, à 4500 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande. Il y a à cette époque un mouvement écologiste très important, c'est Greenpeace, bien entendu, une organisation non gouvernementale dont la lutte contre les essais nucléaires est un des chevaux de bataille. Greenpeace a été fondée 14 ans plus tôt, en 1971. Elle milite d'une façon générale pour la protection de l'environnement, mais tout particulièrement, elle lutte contre le nucléaire sous ses diverses formes. Et cette organisation, Greenpeace, est déjà présente en 1985 dans une quinzaine de pays. Il faut vous dire par exemple qu'en 1980, un chalutier reconverti par Greenpeace a arraisonné au large du port français de Cherbourg tout un convoi qui livrait des déchets nucléaires destinés à la centrale de retraitement de La Hague. Alors ce navire, justement, ce navire reconverti, s'appelle le Rainbow Warrior, ce qui veut dire le guerrier arc-en-ciel. Bien sûr, Greenpeace est opposé aux essais nucléaires français en Polynésie française. Ces essais donc qui sont menés sur l'atoll de Mururoa. Et dans les premiers mois de l'année 1985, il se murmure que Greenpeace prépare une action de grande envergure pour alerter l'opinion internationale sur le danger de ces essais français dans l'hémisphère sud. C'est embêtant ça pour la diplomatie, pour la stratégie française, pour la position même de la France dans le monde. Et évidemment, on peut imaginer que les autorités françaises prépare la riposte. Dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juillet 1985, donc, au nord de la Nouvelle-Zélande, dans le port d'Auckland, le temps est calme, il fait frais et c'est là, soudain, que retentit une explosion suivie d'une seconde détonation encore plus forte quelques minutes plus tard. Peter Wilcox, qui est le capitaine du Rainbow Warrior, dira ceci dans une interview au magazine Society. C'est une interview qui est sortie là très récemment, en juillet dernier. « Je dormais sur ma couchette quand la première bombe a explosé peu avant minuit. Je me suis levé, Je ne retrouvais plus rien dans ma chambre, tout était sans dessus-dessous. J'ai attrapé une serviette et 40 secondes plus tard, j'étais dans la salle des machines. Le premier pont était déjà quasiment sous l'eau. J'étais en train de remonter quand une seconde explosion a retenti. J'ai juste crié d'abandonner le bateau. Je le regardais sombrer depuis le quai quand le chef des machines est venu me dire que Fernando Pereira, un photographe membre de notre équipage, était resté coincé. Il était parti chercher son matériel photo. On est remonté à bord, j'ai essayé de descendre, mais le bateau était déjà totalement sous l'eau. Perdre un membre de ton équipage est le pire qui puisse arriver quand on est capitaine. Le Rainbow Warrior est maintenant couché sur le flanc, il est éventré sur plus de 3 mètres par 2 charges explosives successives. On a vu beaucoup ces images à la télévision à l'époque, bien entendu. Le chalutier fait une 40aine de mètres de long. Depuis 3 jours, il était dans la rade du port d'Auckland. Il devait mettre le cap sur Mururoa, justement, dans le but de perturber les manœuvres de l'armée française dans cet endroit hautement stratégique et parfaitement interdit, bien entendu. Quelques heures plus tard, Greenpeace tient une conférence de presse à Londres. C'est là qu'est le siège de l'organisation, le siège britannique. Le responsable de Greenpeace prend la parole et il affirme que les 2 explosions peuvent difficilement provenir du moteur diesel car le gazole n'est pas extrêmement explosif. Plus étonnant encore, le Rainbow Warrior, qui a été acheté par Greenpeace pour 30 000 livres au ministère britannique de l'Agriculture en 1978, ce navire venait d'être rénové. Il avait de nouvelles voiles, un nouveau moteur diesel, tout un équipement vidéo. Alors, c'est vrai que la piste accidentelle est toujours plausible, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a beaucoup de doutes. À l'époque, voilà ce que, au micro de Béatrice Adjage, donc au micro d'Europe 1, disait un membre de Greenpeace, c'était Louise Russet, à cette époque, justement, dans les tout premiers temps de l'affaire.
Une bombe a été placée à l'extérieur du bateau, sous la coque. Le bateau a coulé en 4 minutes. L'équipage a pu sortir du bateau comme ils ont pu. Et la force des explosions nous fait penser que c'était destiné à tuer. C'est le premier attentat dont Greenpeace est victime. C'est la première fois qu'on a eu un mort. C'est la première fois même qu'on a eu un blessé. De toute façon, nous allons poursuivre nos campagnes contre les essais nucléaires, par quelque pays que ce soit, et en faveur d'un traité d'interdiction totale des essais nucléaires.
Est-ce que vous savez quels peuvent être les responsables de cet attentat?
Nous n'avons aucune idée. Le Rainbow Warrior, il devait partir le 21 juillet pour Mururoa, site des essais nucléaires français. Mais nous ne pensons pas forcément que cet attentat soit lié à notre campagne.
Eh bien voilà, à l'époque il y a encore un peu de naïveté chez cette membre de Greenpeace. En vérité, la Nouvelle-Zélande, elle, parle d'actes terroristes et ouvre une enquête pour homicide involontaire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et avec vous, Franck, cet après-midi, on parle des histoires troubles de la 5e République. En juillet 85, le navire de Greenpeace, le Rainbow Warrior, est attaqué au large de la Nouvelle-Zélande. Place maintenant, Franck, à l'enquête.
Évidemment, les enquêteurs néo-zélandais sont à pied d'œuvre. L'enquête avance vite. Ils sont à la recherche de tous les indices, bien sûr. Et on va trouver très vite, à proximité du lieu de l'attentat, un bateau pneumatique de marque française. C'est un Zodiac avec des bouteilles d'oxygène, des bouées de plongeurs. Et 2 jours après l'attentat, le 12 juillet, un couple de touristes suisses, Sophie et Alain Turange, sont arrêtés à l'aéroport d'Auckland. Ils viennent rapporter un véhicule de location qui correspond au signalement d'un camping-car de location qui avait justement quitté le port d'Auckland la nuit de l'explosion et dont la plaque d'immatriculation a été relevée par un témoin qui pensait, lui, que c'était un simple cambriolage. Mais évidemment, les policiers ont fait des recoupements. Alain et Sophie Turange sont interrogés. Les policiers trouvent quand même que ce couple suisse parle un français très parisien. Et après vérification, les enquêteurs néo-zélandais découvrent que les passeports de ces 2 touristes sont faux. Ce ne sont pas des touristes, en fait. Sophie et Alain Turange sont 2 agents des services spéciaux français. En fait, ils s'appellent Alain Maffard, qui est commandant en second de la base d'Aspreto, en Corse, et le capitaine Dominique Prieur, premier officier féminin membre du service action. Vous savez, le service action, c'est le bras armé de ce qu'on appelle à l'époque la DGSE, la Direction Générale de la sécurité extérieure. Le bras armé, j'ai pas besoin d'aller plus loin, voyez de quoi je parle. La justice néo-zélandaise va inculper les 2 agents pour meurtre. Vous imaginez que là, ça fait un peu tache dans le tableau. Évidemment, de l'autre côté du globe, en France, ça y est, cette fois, c'est la panique. D'abord à la DGSE, mais bientôt au gouvernement et d'une façon plus générale dans tout le pays. On va tenter de couper le plus possible tous les liens qui relient les deux agents au service secret. Mais ils ont laissé des traces, ces gens-là, forcément. Le 26 juillet 1985, un mandat d'arrêt international est lancé contre l'équipage d'un bateau de plaisance français qui s'appelle l'Ouvea. L'Ouvea est un voilier loué à Nouméa et qui a quitté la Nouvelle-Zélande la veille de l'attentat avant de couler, on a envie de dire comme par hasard, le 20 juillet. La France, pour l'instant, nie toute intervention militaire sur le sol néo-zélandais, vous l'imaginez bien. Néanmoins, l'affaire s'emballe. Elle va devenir, et je pense que vous êtes très nombreux à vous rappeler cela, elle va devenir le grand feuilleton de l'été 1985. Tout le monde ne parle que de ça, il suffit d'allumer n'importe quelle télévision. Alors à l'époque, il y a beaucoup moins de chaînes qu'aujourd'hui, mais on ne parle que de cette affaire du Rainbow Warrior. Le journal du dimanche est le premier à suspecter l'implication de la DGSE dans cette affaire. Et dès le 14 juillet, un article est intitulé « Et si un service secret avait commis l'attentat contre Greenpeace ?» Vous voyez, on met encore un gros point d'interrogation. On évoque dans l'article les nageurs de combat du service action de la DGSE, une vingtaine d'hommes, pour la plupart des nageurs de combat de la base d'Aspreto en Corse, qui ont eu pour mission de placer deux charges explosives sur la coque du Rainbow Warrior. Début août, alors que les policiers néo-zélandais arrivent à Paris pour enquêter, et en étroite collaboration officielle avec la police française, bien entendu, deux hebdomadaires, des hebdos français, estiment que la responsabilité des services spéciaux français est engagée. Pour l'événement du jeudi, il est possible que les services français aient organisé cet attentat, je cite, « pour protéger des regards indiscrets les travaux d'aménagement de la piste d'atterrissage de l'île Dao, la base arrière du centre d'expérimentation nucléaire de Tahiti ». Comme quoi, il y a des journalistes très bien informés quand même. Et VSD va plus loin et affirme que la DGSE aurait décidé l'attentat après avoir été informée qu'un appareillage permettant d'analyser les effets et paramètres d'une bombe à neutrons, dont l'expérimentation par la France serait prévue à l'automne à Mururoa, que tout cet appareillage avait été embarqué à bord du Rainbow Warrior. Ça commence à sentir mauvais, si je puis dire, cette histoire. Pour prendre les devants face à la presse, dans la soirée du 7 août, le président de la République en personne, François Mitterrand, envoie une missive au Premier ministre Laurent Fabius, et ça se sait bien entendu, c'est tout le but de l'opération. « Il convient, dit le président Mitterrand, d'ordonner sans délai une enquête rigoureuse, et je vous invite à la mener de telle sorte que si la responsabilité est démontrée, les coupables à quelque niveau qu'ils se trouvent soient sévèrement sanctionnés. » Le Premier ministre, c'est Laurent Fabius à l'époque. Il confie au conseiller d'État Bernard Tricot. Bernard Tricot a été choisi exprès parce que c'est un très haut fonctionnaire. C'est les grands commis de l'État, gaulliste, historique, respecté de tous. Donc on se dit qu'il n'est pas trop proche du pouvoir socialiste. Donc Bernard Tricot se voit confier le soin de rédiger un rapport. Et dans les jours qui suivent, la presse va commencer à donner des détails. On enquête partout, hein, bien entendu. Et cette fois, tout le monde a l'air d'être d'accord, l'attentat a bien été commis par la DGSE. Le 14 août, VSD affirme que l'opération contre le Rainbow Warrior a été montée à l'Élysée et que le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Louis Bianco, c'est un proche de François Mitterrand, et un conseiller de Jacques Chirac se sont rencontrés à deux reprises à ce sujet. Évidemment, il y a beaucoup de rumeurs, il y a des fausses pistes, c'est très difficile de démêler le vrai du faux dans cette affaire. Et d'ailleurs, l'opinion publique s'y perd tellement qu'assez vite, elle va se désintéresser de l'affaire. C'est peut-être aussi le but, vous me direz. On évoque des mercenaires, on évoque l'extrême droite calédonienne, une manipulation d'un service secret étranger, une opération montée à un échelon intermédiaire de la DGSE. On se dit que la presse invente tout et que, après tout, Greenpeace aurait pu faire sauter son propre bateau. Il y a plusieurs journaux qui vont dire ça. Le 25 août, alors que les Français rentrent de vacances, Monsieur Tricot, Bernard Tricot, remet donc son rapport au Premier ministre. « Tout ce que j'ai entendu et vu, écrit-il, me donne la certitude qu'au niveau gouvernemental, il n'a été pris aucune décision tendant à ce que le Rainbow Warrior soit endommagé. Il n'y a aucune raison de penser, et il existe de fortes raisons de croire le contraire, que la DGSE ait donné aux agents en Nouvelle-Zélande des instructions autres que celles tendant à mettre correctement en œuvre les directives gouvernementales. » On a envie de dire qu'en termes administratifs, ces choses-là sont dites.
Malo, malo que el sol, y mientras ya en el mundo está lejos de paso de mí.
des Gypsy Kings sur Europe 1, la bande originale du film Vanille Fraise, sorti en 89 et signé Gérard Houry. Restez avec nous sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand revient sur une histoire trouble de la 5e République, l'affaire du Rainbow Warrior.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et pour cette émission consacrée aux histoires troubles de la 5e République, Franck Ferrand, vous revenez sur l'affaire du Rainbow Warrior. Nous sommes donc 2 mois après que le navire ait coulé à Auckland. L'enquête se poursuit et se précise, Franck.
Officiellement, la DGSE est mise hors de cause. Les Turanges sont bien des agents de la DGSE, ça personne ne peut le nier. Mais, dit-on, ils effectuaient une simple observation des actions de Greenpeace. Circulez, il n'y a rien à voir. Le président de Greenpeace voit dans ce rapport, je le cite, « une insulte à l'intelligence ». Voilà ce que nous dit Marc Baudrier dans son ouvrage. L'image de l'exécutif a déjà beaucoup souffert depuis le déclenchement de l'affaire. La presse monte à l'assaut du pouvoir, sans l'intervention du juge, avec une férocité et une envie de savoir sans concession. Pour avoir tenté de colmater les brèches, pour avoir essayé de ne pas tout dire, pour avoir cru possible l'extinction simple du scandale sur un support insuffisant, Mitterrand a pris le risque d'un violent retour de bâton, car la pression ne cesse de monter. Et c'est vrai que la pression, elle va se faire de plus en plus forte. Le 17 septembre 1985, dans le journal Le Monde, 2 journalistes extrêmement importants du Monde, Edoui Plenel et Bertrand Legendre, publient un article qui s'intitule « Le Rainbow Warrior aurait été coulé par une 3e équipe de militaires français ». Il s'agit d'une équipe de plongeurs de combat qui ne compte que 2 hommes. La piste avait été évoquée déjà la semaine précédente dans Le Canard Enchaîné. Alors c'est vrai que la source est fiable puisque c'est un haut responsable de la DGSE. On commence à y voir plus clair. Le faux couple Turanges, donc ces 2 agents de la DGSE, serait en fait un intermédiaire entre les marins du voilier UVA chargé de convoyer les explosifs et un commando de nageurs de combat. C'est un scoop, comme on dit. Le ministre de la Défense, à l'époque, c'est Charles Hernu, très proche, très fidèle de François Mitterrand. Charles Hernu convoque la presse. Il dément, bien entendu, les révélations du Monde. Seulement, dès le lendemain, l'Express en remet une couche et confirme les informations du Monde, citant les initiales des 2 nageurs impliqués. Là, cette fois, on peut dire qu'il s'agit d'une affaire d'État. Le président de la République, François Mitterrand, demande au Premier ministre Laurent Fabius de procéder à des changements de personnes. Alors, ça veut dire que le ministre de la Défense, Charles Hernu, est contraint de démissionner. Le patron de la DGSE lui-même, l'amiral Lacoste, le très respecté amiral Lacoste, est limogé, figurez-vous. Il expliquera par la suite avoir reçu des ordres précis de la part de son ministère, mais également d'avoir eu la validation de François Mitterrand. C'est ce que dit l'amiral Lacoste. Le 22 septembre, le Premier ministre Laurent Fabius s'exprime depuis l'hôtel Matignon. Il faut imaginer les photographes qui l'assaillent littéralement. Il affirme « Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Cette vérité a été cachée au conseiller d'État Tricot. » Tiens, tiens, ça veut dire qu'au plus haut niveau, celui du Premier ministre, on remet en cause le rapport officiel qui avait été demandé à ce personnage apparemment au-dessus de tout soupçon. Le Premier ministre essaie de noyer le poisson en faisant ce qu'on fait toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire en proposant la nomination d'une enquête parlementaire, d'une commission, pardon, pour mener une enquête parlementaire. Évidemment, l'enquête en question ne sera jamais ouverte. Et pendant ce temps, le nouveau ministre de la Défense, qui est Paul Quilès, entend les principaux protagonistes. Plusieurs officiers de la DGSE sont arrêtés, sont accusés d'avoir informé la presse. Certains sont relaxés, d'autres sont renvoyés de l'armée. Le 22 novembre 1985, les faux époux Turanges, les 2 agents de la DGSE, Alain Maffard, qui commandait la base des nageurs de combat d'Aspreto, et le capitaine Dominique Prieur, sont condamnés à 10 ans de prison pour homicide involontaire. Ils sont transférés sur l'île d'Ao, en Polynésie française, avant de rentrer en France quelques mois plus tard. À la même période, le Rainbow Warrior est immergé dans la baie de Wangarai, au nord de la Nouvelle-Zélande. La France va présenter des excuses officielles et verser des indemnités substantielles, du reste, à la Nouvelle-Zélande. Quant aux essais atomique français dans le Pacifique, vous savez que c'est le président Chirac qui, 10 ans plus tard, en 1996, y mettra fin. Cette affaire du Rainbow Warrior a été très confuse à l'époque. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle n'a jamais vraiment quitté la scène médiatique. D'ailleurs, pas plus tard que le 6 septembre dernier, il y a eu, vous l'avez entendu sans doute sur l'antenne d'Europe 1 notamment, un nouveau rebondissement. Le colonel Jean-Luc Kister, qui était capitaine au moment des explosions, qui était membre de l'unité des nageurs de combat du service action de la DGSE et responsable de l'équipe chargée de poser les charges explosives sur la coque du navire, le colonel Kister est sorti de son silence. Il a présenté ses excuses à la Nouvelle-Zélande, à Greenpeace et bien sûr à la famille de la victime, le photographe Fernando Pereira. L'entretien a été diffusé sur Mediapart et sur la télévision publique néo-zélandaise. Je précise bien néo-zélandaise. Jean-Luc Kister affirme que plusieurs scénarios proposés par la DGSE, comme endommager l'arbre d'hélice du navire, avaient été refusés par le pouvoir en place. Et il explique, le colonel, que deux explosions avaient alors été planifiées. La première pour faire évacuer le navire, pour pas que ça fasse de victimes, le moins possible en tout cas. Et puis la deuxième, bien entendu, après toucher, couler. Bonjour Marc Baudrier.
Bonjour.
Voilà Franck. Une affaire qui a fait beaucoup de bruit, comme toutes celles que vous évoquez dans cet ouvrage sur les affaires troubles de la Ve République.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Après l'affaire du Rainbow Warrior dont vous venez de nous rappeler l'histoire, Franck, jusqu'à 15h sur Europe 1, vous revenez sur les histoires troubles de la Ve République avec votre invité Marc Baudrier, journaliste et responsable de la rubrique Média du magazine Challenge et auteur d'une histoire trouble de la Ve République, Le Poison des Affaires, paru chez Talendier.
Alors, nous avons beaucoup de choses à dire sur cette affaire, Marc Baudrier, mais il me semble que ce qu'il y a de plus remarquable dans cette histoire est la quantité d'archives d'Europe 1 que nous avions. Je vous en ai fait grâce, si je puis dire, parce qu'il me paraît plus intéressant d'entrer dans le détail et l'analyse. Mais on a énormément d'archives Europe 1, on a des archives de partout. Il y a des quantités d'articles, parce que dans cette affaire du Rainbow Warrior, c'est la presse française qui a été à la manœuvre.
Absolument, c'est une affaire qui voit l'émergence de la puissance de la presse et qui devient un contre-pouvoir absolument féroce sous Mitterrand. Elle a déjà d'ailleurs montré son pouvoir un petit peu avant avec les Irlandais de Vincennes. Cette affaire, on ne va pas revenir dessus tout de suite, mais qui était complètement, elle aussi, désossée par la presse et qui va coûter très très cher à François Mitterrand et au gouvernement socialiste, comme l'affaire du Rainbow Warrior, en termes de popularité et de crédibilité, etc. La presse se lance à l'assaut du pouvoir dans un bras de fer frontal et en mettant complètement de côté le juge. Il n'y a pas de juge dans cette affaire.
C'est quand même incroyable, hein, ça.
Sauf en Nouvelle-Zélande, parce que c'est vrai qu'on va très vite en Nouvelle-Zélande au début de l'affaire, et là, les juges néo-zélandais, les enquêteurs néo-zélandais, la police, fait un travail très rapide et remarquable. Mais en France, c'est la presse qui fait.
Mais c'est quand même inouï, ça, qu'il n'y ait pas d'enquête en France, qu'on ait nommé personne. C'est quand même inouï.
Alors, c'est logique dans le déroulement des affaires, puisque l'État, on l'a su après, évidemment.
Il était responsable.
L'État était responsable.
Donc, il n'avait pas l'intention d'activer le parquet, en fait.
Et non seulement il n'avait pas cette intention, mais il avait même plutôt l'intention de noyer le poisson, ce qu'il a essayé de faire avec le rapport Tricot. Vous avez très bien raconté ça. Alors, on a emmené ce pauvre Bernard Tricot, qui était plutôt un homme de droite, qui était de bonne foi, qui était a priori de bonne foi. Tout le monde lui laisse, en tout cas lui donne ce crédit-là. On l'a emmené voir les marins de l'UVA, on l'a emmené rencontrer les plus hautes autorités de l'État. Ce pauvre Bernard Tricot, il conclut finalement que le Rainbow Warrior a sauté par l'opération du Saint-Esprit. Alors évidemment, ça ne contente pas tellement ni les journalistes,
si on avait voulu,
ni les Néo-Zélandais. Ils n'entendent pas de cette oreille.
Si on avait voulu énerver la presse, on ne s'y serait pas pris autrement quand même. On a l'impression dans cette affaire du Rainbow Warrior, puis on va parler tout à l'heure bien sûr d'un certain nombre d'autres affaires de cette Ve République, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas été épargnée sur ce plan-là. On a l'impression à propos du Rainbow Warrior qu'il y a eu une grande quantité de cafouillage et plutôt au sommet, parce que reprenons les choses à partir de la base, si je puis dire. L'opération de commando, elle a été menée et plutôt bien menée. Alors il y a eu une bavure, si l'on peut dire, c'est que le photographe photographe a voulu redescendre dans le bateau pour chercher son matériel après la première explosion. Donc lui va être victime. Mais c'était une affaire qui a été quand même, si je puis dire, rondement menée en tant que telle.
Pas tant que ça. D'abord parce que c'est vrai que ce photographe est mort à partir du moment où le but de l'opération, c'était le but de ces deux explosions, c'était qu'il n'y ait pas de mort. La première devait chasser tout le monde et la seconde détruire le navire.
La première était là pour faire peur et la deuxième pour détruire.
Voilà. Or, il y a un mort, évidemment, donc là, ça commence à...
Oui, c'est une grosse bavure, ça, on ne peut pas dire le contraire.
Très
oui.
Grosse bavure. Et puis, les époux Turange, curieusement, vont accumuler un certain nombre d'erreurs au départ.
Ils laissent des traces.
Ils laissent des traces, le canot, les bouteilles, on va retrouver des empreintes sur ce canot qui va les confondre. Et puis, ils laissent... repérer la plaque minéralogique de leur camping-car. Et puis, lorsqu'ils sont appréhendés, parce qu'ils sont appréhendés très vite, quelques jours plus tard, ils téléphonent au central de la DGSE. Évidemment, les Néo-Zélandais se recoupent, s'aperçoivent que le coup de fil est quand même suspect, et évidemment, on repère le numéro. Et donc, toutes ces traces... vont mettre la puce à l'oreille, même plus que la puce à l'oreille, aux Néo-Zélandais très vite. En réalité, en quelques jours, vous avez raconté ça longuement, mais cette filature des traces laissées par la France et les agents français en Nouvelle-Zélande dans cette affaire va être remontée très vite. L'explosion a lieu le 10 juillet et le 23 juillet, Dominique Prieur et Alain Maffard ont été saisis et ils sont inculpés pour meurtre, incendie volontaire, association de malfaiteurs, vous en avez parlé.
Mais ils n'ont pas été d'une discrétion folle quand même.
Donc ils ont laissé des traces, on les a vite retrouvées. Et ça, pour des agents secrets, ça surprend beaucoup d'ailleurs les agents secrets que VSD, par exemple, interroge à l'époque.
Alors, ce qui est étrange, c'est la réaction du gouvernement néo-zélandais, qui n'est pas tendre du tout. On aurait pu imaginer qu'entre alliés, qu'entre membres du même bloc, si je puis dire, il y aurait une certaine compréhension. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Hein. Les néo-zélandais remuent ciel et terre.
Sont venimeux, et ça tient notamment à la personnalité du premier ministre néo-zélandais de l'époque, qui s'appelle David Lange, et qui est particulièrement anti-français. Et donc, il en profite, il va avoir des mots extrêmement durs contre la France. Il va d'ailleurs, avant la sortie du rapport Tricot, expliquer urbi et orbi, si je puis dire, que ce rapport sera un pétard mouillé qui sera complètement faux. Finalement, il aide beaucoup les journalistes français, d'abord en suscitant des enquêtes sur place qui vont aller très vite, et puis aussi par ses propos, il aide les journalistes et les médias français à prendre un ton qui va être extrêmement violent, extrêmement dur contre le pouvoir.
Il y a un mot qu'on a beaucoup entendu à l'époque, c'est le mot fusible, puisqu'on vire, il n'y a pas d'autre mot, le grand patron de la DGSE, l'amiral Lacoste, et bientôt c'est le ministre de la Défense en personne. Donc là, ça monte très très haut, qui est obligé de présenter sa démission. Quand je dis très très haut, il y a quand même deux autres personnalités au-dessus, le Premier ministre et le Président de la République, qui eux, si je puis dire, s'en lavent les mains.
Absolument. Le pauvre Hernu a vraiment servi de fusible, c'est le cas de le dire. Il est il a évidemment donné son accord à l'opération, il l'a donné assez tardivement, mais on a su après, mais à l'époque, on ne le savait pas, que François Mitterrand avait oralement, ça a été raconté par les généraux qui étaient dans son entourage, avait donné son accord à cette opération. Mais évidemment, le cancer médiatique et l'ampleur de la déflagration médiatique en France impose à Mitterrand, qui a tout fait pour l'éviter d'ailleurs, de couper le membre infecté,
oui,
on va
ça,
dire.
Oui.
Et donc, il vire son ménagement Hernu, qui était pourtant un soutien très important, un fidèle de Mitterrand, sur lequel il comptait, qui avait une certaine cote dans l'opinion, et il n'y en avait pas tant que ça.
Maire de Villeurbanne.
Et Laurent Fabius... Mitterrand s'en sort à peu près, Laurent Fabius lui s'en sort très bien, il va très bien manœuvrer dans cette affaire.
Oui, vraiment d'une façon plus qu'habile, si l'on peut dire. Alors néanmoins, on peut imaginer que ça va jouer un rôle dans la campagne des élections législatives qui vont suivre très bientôt, au printemps 1986, et qui vont voir la victoire de la droite et l'arrivée de Jacques Chirac à Matignon, c'est-à-dire la fameuse cohabitation. Est-ce que l'on peut mesurer l'impact d'une affaire comme le Rainbow Warrior en termes politiques. Est-ce que notamment l'opposition de droite à l'époque s'est servie de cette affaire ?
Alors, l'opposition de droite, c'est pas privé de se servir de l'affaire. Et évidemment, on a beaucoup tiré dans les pattes du pouvoir, reproché à Mitterrand. On a accusé vraiment les responsables politiques. On s'est concentré sur Ernu, sur Mitterrand, moins sur Fabius, qui, encore une fois, s'en est bien tiré. Et au terme de tout ça, l'opinion publique et le crédit du pouvoir est absolument laminé. 20% des Français estiment que le pouvoir dit la vérité. C'est un sondage BVA à Paris Match qui date des 20 et 21 septembre. On est 85, un mois et demi, 85, un mois et demi après l'explosion. Et les Français, d'ailleurs, ne gagnent, aucun piste ne gagne aucunement la sympathie des Français. Ils sont favorables à la poursuite des essais nucléaires pour 69% d'entre eux.
Oui. Donc ça, pour ce qui est des essais nucléaires, rien à voir d'une certaine manière. On peut quand même préciser que François Mitterrand sera réélu président de la République en 88 et que actuellement le ministre des Affaires étrangères s'appelle Laurent Fabius.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Parmi les histoires troubles de la Ve République dont on parle cet après-midi sur Europe 1, il y a celle du Rainbow Warrior, mais pas que, Franck Ferrand. Cet après-midi, vous recevez Marc Baudrier, journaliste et responsable de la rubrique Média du magazine Challenge.
Alors cette affaire du Rainbow Warrior, Marc Baudrier, n'est qu'une des très nombreuses affaires qui ont émaillé la vie politique depuis 1958. On va en évoquer un certain nombre, si vous le voulez. Est-ce qu'elles ont un point commun, toutes ces affaires que vous évoquez dans cet ouvrage? Une histoire trouble de la Ve République, le poison des affaires?
Alors, pas beaucoup de points communs, non. Elles ont des points communs par période. Il y a en gros trois grandes périodes dans l'histoire des affaires de la Ve République. Il y a, pendant les deux premières décennies de la Ve République, il y a d'abord assez peu d'affaires, on y reviendra peut-être. Et puis surtout, elles ne touchent pas le président de la République. Oui. De Gaulle et Pompidou évacuent ça, écrasent les affaires de leur autorité, de leur prestige, avec des mots d'ailleurs extraordinaires. Et puis, à partir de Mitterrand, à partir de l'affaire des...
Même Giscard déjà.
Giscard en fait, à partir des diamants. À partir des diamants de Giscard d'Estaing, à la toute fin de son mandat, le président de la République est touché. Ça s'accélère sous Mitterrand avec les Irlandais ou le Rainbow Warrior. Giscard lui-même est rattrapé en 83.
Par les avions renifleurs.
Et là, il y a une période un petit peu entre deux pendant laquelle les affaires sont très violentes contre le président. Et puis après, les 20 années qui vont suivre, à partir des années 90 et jusqu'à l'époque
moderne. Le président de Jacques Chirac, oui.
Voilà, les affaires explosent en nombre et en violence et elles sont de plus en plus financières. Donc il y a un peu trois périodes, vous voyez, qui sont assez distinctes, me semble-t-il, sur la typologie des affaires et la... et les personnes qu'elle touche.
Alors, vous évoquez dans votre premier chapitre une affaire qui n'a pas un lien tout à fait direct avec le pouvoir, puisque c'est la fameuse affaire de l'Observatoire qui, décidément, met encore en cause, ou déjà, devrais-je dire, François Mitterrand. On est en 59, là.
Alors, c'est vrai, François Mitterrand n'est pas au sommet du pouvoir. Il est quand même sénateur de la Nièvre. Mais c'est une affaire qui est assez extraordinaire, qui est assez belle, parce que d'abord, et c'est assez rare, finalement, dans une histoire de ces affaires de la Ve République, il n'est pas question d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire d'honneur. Et François Mitterrand finalement va jouer d'un talent d'oratoire extraordinaire pour se sortir d'un piège dans lequel il s'est quand même un peu fourré, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, je ne sais pas si on peut la raconter
en deux mots.
Dans la nuit du 15 au 16 octobre 59, il est victime d'un attentat. C'est en tout cas ce qu'il raconte le lendemain matin à la presse. Sa 203 bleue est percée d'une rafale de pistolet mitrailleur.
Ça fait un peu de bruit parce qu'une fusillade en plein Paris contre un sénateur de la République, ancien ministre, enfin bon, voilà.
La France est sidérée. Il y a une séance très animée à l'Assemblée nationale. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des tueurs dans Paris qui se baladent et qui mitraillent nos sénateurs. Où est-on? Et une semaine après cette conférence de presse, un petit journal hebdomadaire d'extrême droite qui s'appelle Rivarol explique et sort un énorme titre exclusif. L'homme qui a tiré sur Mitterrand nous fait le récit complet de l'attentat bidon. Et Rivarol dénonce, je cite, l'une des machinations les plus monumentales et les plus scandaleuses qui ait jamais existé.
En fait, c'est une affaire truquée, hein, c'est ça.
L'homme qui avait tiré sur la voiture de Mitterrand raconte qu'en fait, tout était prévu d'avance, tout a été bidonné. Et Mitterrand va essayer de danser entre les faits qui sont établis et qu'il ne contestera pas et l'interprétation des faits avec un art consommé.
Alors, évidemment, ça, encore une fois, c'est une affaire en marge, si je puis dire. Là, pour l'instant, le pouvoir n'est pas concerné. On ne peut pas en dire autant dans l'affaire Ben Barka, 1965.
Non, là, dans l'affaire Ben Barka, le pouvoir est concerné, mais il est concerné assez tard et un peu par raccroc. Parce que le premier pouvoir concerné par l'affaire Ben Barka, qui est une affaire horrible, là pour le coup, c'est le pouvoir marocain. C'est lui qui est accusé d'abord d'avoir torturé à mort Ben Barka, qui était le principal opposant au pouvoir marocain, torturé en France par le principal ministre d'Hassan II, lui-même, qui était le général Oufkir. Et alors simplement, donc on accuse beaucoup le Maroc, et puis un jour ça rebondit au sommet du pouvoir français parce qu'on s'aperçoit que deux policiers ont transporté Ben Barka de l'endroit où il avait rendez-vous dans Paris jusqu'à l'endroit où il a été torturé plusieurs jours plus tard. Mais ces deux policiers finalement ont été un petit peu... abusé, et il ne savait pas du tout ce qu'il faisait. Mais ça n'empêche, ça a donné lieu à une campagne anti-De Gaulle très violente, dont De Gaulle se débarrasse, là aussi, avec beaucoup de talent, rien que de vulgaire et de subalterne.
Il y a eu des affaires, évidemment, il faudrait dire un mot de l'affaire Markovic, il faudrait parler de l'affaire de la mort de Boulin, etc. Mais c'était plutôt des énigmes ou des mystères que des affaires, si je puis dire. L'affaire, c'est-à-dire un élément qui est repris par la presse et qui devient un sujet de débat pour l'opinion, c'est quand même plus récent. L'essentiel, c'est comme vous le disiez, à partir de la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, avec l'affaire des diamants. Affaire bidon, elle aussi, au demeurant, il faut le dire.
Alors, affaire complètement bidon, ultra-violente. C'est la première fois qu'on attaque le président de la République lui-même. Jusque-là, on attaquait l'entourage, mais pas le président lui-même. Et pour une affaire de cornecus, si vous me passez l'expression, puisqu'il s'agit de quelques petits diamants qui seront vendus autour, je crois, de 20 000 euros bien après. Qui avait été tout à fait négligé par Giscard. Et Giscard, qui n'a pas l'expérience...
Il n'a pas vu venir, non.
Et Giscard, qui n'a pas vécu justement ces attaques frontales contre le président, puisque ses deux prédécesseurs n'avaient pas vécu ça, prend ça par le dédain, il est vexé,
humilié. On est quasiment déjà dans la campagne présidentielle de 80.
On est en 79, et la campagne approche. Et évidemment, l'opposition va se saisir de ça pour faire campagne, et Giscard aura le sentiment que ça lui a coûté sa réélection.
Il y a quand même une grosse affaire entre les deux, si je puis dire, dont on avait eu l'occasion de parler longuement ici dans une émission qui s'appelait Zone d'ombre, c'était à l'été 2010 sur Europe 1, c'est l'affaire de Breuil, qui elle a failli toucher de près les plus hautes sphères de l'État.
C'est vrai, l'affaire de Breuil, c'est donc l'assassinat de ce personnage de la Ve République qui avait eu des postes très importants, qui avait négocié les accords d'Évian, par exemple, qui était une personnalité de la Normandie. Et en plein Paris, il tombe sous les balles de deux malfaiteurs. En fait, De Breuil avait des activités, avait prêté à des gens un peu troubles de l'argent, ces gens n'avaient pas l'intention de le rembourser, et donc ils avaient trouvé cette solution un peu radicale pour se dégager de leurs dettes. Et Poniatowski, Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur, va être impliqué et embarqué dans cette affaire, parce qu'on s'aperçoit au bout d'un moment qu'il avait
été informé,
En tout cas, qu'il avait vu De Breuil juste avant son assassinat, qu'il le connaissait bien et que sans doute il en savait un peu plus long qu'il ne l'avait dit. Il va avoir beaucoup beaucoup de mal à se dégager de tout ça, mais ça n'atteint pas directement Giscard. Ça va tuer la carrière de Poniatowski, mais Giscard est touché par ricochet, mais pas directement.
Mais dans le cas des affaires du septennat suivant, enfin des deux septennats suivants, de François Mitterrand, donc les 14 années de François Mitterrand à l'Élysée, il y a énormément d'affaires là pour le coup, et on ne peut pas dire qu'elles touchent vraiment le chef de l'État non plus. Et Dieu sait pourtant que certaines sont sévères. Vous parliez de l'affaire de Vincennes, notamment les Irlandais de Vincennes.
Si, ça touche assez directement le président dans la mesure où c'est lui qui a mis en place ces gendarmes qu'on appelait les gendarmes du président, du commandant Proutot, et qui ont finalement, pour aller vite, un peu bidonné l'arrestation des dangereux terroristes irlandais qui s'avéreront être finalement du menu fretin. Et donc, il est quand même, et la déflagration politique le touche directement. Les Irlandais de Vincennes vont mettre à mal très vite, puisqu'on est très vite, après un an après l'élection de François Mitterrand, vont mettre à mal déjà considérablement la cote de popularité de Mitterrand, qui était déjà très basse.
Ce qu'il faut dire, c'est que plus le temps passe, avec les septennats, enfin les mandats de Jacques Chirac, puis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, plus le temps passe et plus les affaires débordent du mandat. Et c'est-à-dire qu'il y a des bombes à retardement, d'une certaine manière, et les affaires rattrapent les présidents après leur mandat, il faut dire ça aussi.
Oui, c'est vrai. Alors,
c'est peut-être une évolution de la justice, tout simplement.
Elle se prolonge, c'est la première fois, c'est le cas de Giscard en 83
avec les avions renifleurs,
et puis ça va se multiplier. Ce qui est très marquant aussi, je crois, dans l'évolution de ces affaires, si vous voulez, c'est leur explosion, leur multiplication, qui est absolument...
Ça devient exponentiel.
Qui est considérable. Pour aller vite, on a 5 affaires par décennie, durant les 2 premières décennies de la Ve République. Deux affaires par décennie. On est à une vingtaine dans la décennie des années 80, qui est un peu charnière, celle dont nous parlions avec Lorraine Beauverrior. On arrive à 5 affaires par an dans les 2 dernières, dans les 25 dernières années.
5 affaires par an. Oui, donc c'est
On ne parle que des affaires politico-financières. On met à part un peu les affaires de mœurs,
etc. Oui. Oui, ça en dit long sur l'évolution de notre République.
Exactement.
Nous sommes au terme de cette émission, Marc Baudrier, mais je renvoie tous les auditeurs qui en voudraient en savoir davantage à votre ouvrage chez Talendier, Une histoire trouble de la Ve République, sous-titré Le poison des affaires, un poison qui pourrait devenir létal.
Et dans un instant, Franck, vous reviendrez sur les origines de l'état civil.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
À l'occasion du 23e congrès national de généalogie qui a lieu jusqu'au 4 octobre au Futuroscope de Poitiers et à l'occasion de la sortie de Généatique 2016, la nouvelle édition du logiciel francophone de référence, Franck, vous revenez sur les origines de l'état civil aujourd'hui.
Ah, c'est une belle histoire que celle de l'état civil. Vous savez que c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts en août 1539, une ordonnance du chancelier Poyet, qui signait de François Ier, bien entendu, qui instaure un registre des sépultures, des baptêmes, avec indication du nom du père, ce qui est fondamental pour les généalogistes, et un dépôt annuel des registres au greffe. Avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts, il y avait une sorte de registre, quand même, qui était tenu par les prêtres pour connaître le nombre de feux, vous savez, le nombre de paroissiens. Le but était notamment de lutter contre les avortements. Mais enfin, ça restait tout ça restait très aléatoire. En 1579, et ça, c'est une ordonnance qu'on a tendance à oublier, Henri III signe à Blois une ordonnance qui interdit le mariage clandestin, sous peine de mort, s'il vous plaît. Un registre des mariages est créé avec publication des bans et 4 témoins, 2 pour le mari, 2 pour l'épouse. Ça, c'est un bonheur pour les généalogistes, vous imaginez. Louis XIV, en 1667, exigera la tenue des registres en double pour qu'on puisse en déposer un au greffe. Ça devient quand même de plus en plus administratif, cette monarchie. On est là à l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye. Et puis, avec la révocation de l'édit de Nantes en 85, les registres des protestants sont supprimés. Ça, c'est un problème, en revanche, pour les généalogistes. En 1736, Louis XV ordonne la tenue des registres par tous les curés de France. En 1787, à la veille de la Révolution, Louis XVI ouvre l'état civil aux personnes non catholiques. Maintenant, les protestants peuvent faire des déclarations de naissance, de mariage, de décès, etc. Et en 92, alors là, c'est la naissance, la fondation de l'état civil moderne sous la Révolution, avec tenue des registres par les municipalités, bien sûr, et non plus par les curés. Le livret de famille, quant à lui, sera institué en 1877, généralisé en 1884. Les mentions marginales sont instaurées le 17 mars 1897 pour les mariages, le 10 mars 1932 pour les divorces et le 29 mars 1945 pour les décès. J'ai presque l'impression moi-même d'être cet après-midi d'une précision de greffier. Vous voyez à quel point nos généalogistes ont été gâtés par l'administration française.